France Info.
Le premier confinement au printemps dernier, il a sauvé des vies parce qu'il a freiné le Covid, bien sûr, mais aussi parce qu'il a permis de diminuer la pollution de l'air. C'est ce qu'indique aujourd'hui Santé Publique France. Bonjour Sébastien Denis.
Bonjour.
Vous êtes directeur santé, environnement et travail de cet organisme. 2300 morts en moins, dites-vous, c'est parce que nous ne prenions plus nos voitures que la pollution a baissé?
Absolument, et en partie, puisqu'effectivement, le premier confinement a eu pour conséquence de modifier drastiquement nos comportements et nos habitudes, en l'occurrence prendre moins sa voiture ou réduire aussi des émissions industrielles du fait de la diminution de l'activité, donc en effet.
Mais ça a repris ensuite, ce n'est pas un effet durable. On a beaucoup parlé en ville de l'essor du vélo avec des pistes cyclables qui ont été pérennisées depuis la fin du confinement. Ça ne permet pas de maintenir ces effets positifs?
Alors ces effets positifs sont effectivement très liés à la période de confinement et à la réduction de l'activité pendant cette période de confinement. Et il est effectivement très probable qu'à la reprise de l'activité, les concentrations en polluants atmosphériques réaugmentant, l'impact sanitaire réaugmente. Et d'ailleurs, de manière plus générale, nous avons également actualisé l'estimation à long terme de la pollution atmosphérique qui aujourd'hui encore représente un risque conséquent puisqu'elle représente 40 000 décès annuels pour la population française, soit 7% de la mortalité.
D'autant qu'il y a eu peut-être une crainte à la sortie de ce premier confinement, c'était de reprendre les transports en commun et certains privilégiaient les transports individuels et particulièrement la voiture. On parlait du vélo, mais la voiture aussi a été davantage utilisée à la sortie de ce premier confinement.
Alors il est vrai que les transports en commun ne permettaient pas de respecter les gestes barrières puisque ces gestes barrières augmentent l'efficacité de lutte contre l'épidémie. Néanmoins, ce que nous indiquent ces chiffres, c'est que effectivement le fait de réduire l'utilisation de sa voiture a une diminution effective sur l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique liée à ces utilisations de véhicules.
Et cette étude de Santé Publique France aujourd'hui est plus large que ce seul premier confinement. Elle souligne que la situation s'améliore. Il y aurait déjà, avant la pandémie, sur la période que vous étudiez, 2016-2019, vous notez, je crois, 8000 morts de moins par an à cause de la pollution de l'air, les maladies cardiovasculaires qu'entraîne cette pollution. Donc c'était déjà une dynamique qui était en cours.
Alors effectivement, c'est une dynamique en cours puisque nous avions fait une première estimation sur une période d'il y a une dizaine d'années qui estimait à 48 000 décès l'impact de la pollution de l'air sur la santé et notamment sur les maladies de long terme que vous avez citées. Si on peut se réjouir de cette diminution, néanmoins ce chiffre de 40 000 décès reste préoccupant.
Oui, c'est considérable.
C'est considérable, il s'agit de 40 000 décès évitables. C'est-à-dire que des actions pour réduire la pollution atmosphérique auront ou ont un vrai impact sur la diminution de ce nombre de décès.
Et c'est homogène partout en France ou ça se constate plutôt en ville où on pourrait penser qu'il y a plus de voitures?
Alors effectivement, les impacts sont les plus importants en zone urbaine et au droit des grandes villes et des grandes communes et de France. Mais néanmoins, cet impact s'observe aussi dans des zones plus agricoles, puisque n'oublions pas que des sources de contaminants atmosphériques sont également présentes au droit de ces zones, telles que les particules par exemple.
De quelle façon, par quel biais, ce sont les épandages sur les cultures
qui... Les épandages agricoles par exemple, effectivement.
Sur quoi est-ce qu'on peut agir maintenant pour essayer de continuer à améliorer la situation? On parle beaucoup de généraliser le télétravail pour freiner le virus, mais ça peut aussi freiner du coup ces maladies liées à la pollution de l'air?
Alors effectivement, c'est l'enseignement lié à ce travail que nous avons mené sur le Covid et sur la période de confinement nous montre qu'il est important de réfléchir sur les différentes mesures. Il n'est pas question effectivement d'imposer de manière continue et durable un confinement tel qu'on l'a subi tous, mais que néanmoins certaines modalités permettent de réduire la pollution atmosphérique et d'impacter positivement notre santé. Donc c'est le télétravail comme vous l'avez dit, mais il y a aussi d'autres actions possibles dans des secteurs résidentiels tels que faire de meilleures combustions dans de meilleurs appareils de chauffage au bois, par exemple, qui sont également source de particules.
Merci Sébastien Denis, directeur santé, environnement et travail chez Santé Publique France.
Le vrai du faux. Bonjour Gérald Roux. Bonjour Camille, bonjour à tous.
Et nous revenons sur ce terrible seuil des 100 000 morts du Covid que la France doit franchir aujourd'hui.
Un chiffre de Santé publique France qui est sous-estimé, selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Et c'est vrai ce que dit l'INSERM ?
Eh bien oui, c'est vrai, et ça s'explique par les différences de méthode de calcul entre ces deux organismes publics. Il faut savoir que chaque jour, quand nous parlons du Covid sur France Info, les décès, nous nous basons sur les chiffres de Santé publique France qui évoluent en permanence. Tous les jours, les décès dans les hôpitaux remontent vers Santé publique France et deux fois par semaine s'ajoutent les décès dans les EHPAD et dans les instituts spécialisés qui accueillent notamment des personnes handicapées.
Et du côté de l'INSERM, qu'est-ce qu'on compte ?
On recense les certificats de décès remplis par les médecins qui mentionnent le Covid. Avec ce bilan, l'INSERM compte des victimes que Santé publique France ne recense pas, notamment les malades qui ont succombé au Covid à leur domicile ou dans des unités de soins de longue durée. Le bilan de l'INSERM est donc plus proche de la réalité, mais il n'est pas calculé en temps réel. Il faut attendre que les certificats de décès soient collectés, ce qui prend plusieurs semaines.
Alors comment l'INSERM arrive à la conclusion que le bilan de Santé publique France est sous-estimé ?
Ça s'est passé de cette manière. L'INSERM a publié un bilan arrêté au 31 décembre 2020, 76 000 morts du Covid. À la même date, le bilan de Santé publique France était de 64 600 décès, ce qui fait une différence de plus de 11 000 morts. Et selon les projections de l'INSERM, il est évident qu'un décalage du même ordre s'est maintenu entre le 31 décembre et aujourd'hui, d'où sa conclusion, les 100 000 décès sont dépassés, sans qu'on puisse avoir toutefois un chiffre précis.
Il n'y a qu'en France qu'il existe ce genre de décalage ?
Non, il n'y a pas qu'en France. Par exemple, aux États-Unis, en octobre dernier, la plus grande d'associations professionnelles de médecins était arrivée à cette conclusion. Pour deux Américains comptés comme officiellement décédés du Covid, eh bien, il y avait en fait un troisième dont la mort était directement ou indirectement liée à la maladie.
Gérald Roux, le vrai du faux sur France Info.
Et l'épidémie se propage aussi en entreprise, notamment quand les règles sanitaires ne sont pas respectées. C'est ce qui s'est passé dans un centre d'appel téléphonique à Angers, un centre de la société Coriolis qui emploie 400 personnes. Depuis le début du mois, 8 salariés ont contracté le Covid, une vingtaine de cas contacts. Et c'est loin d'être un cas isolé, dit aujourd'hui à France Info Gérald Lecor. Il est représentant de la CGT au ministère du Travail et inspecteur du Travail.
Dans les centres d'appel, mais aussi dans des sociétés d'assurance bancaire, ainsi que dans des secteurs de, plusieurs secteurs de l'industrie, où on a plein de clusters. Et l'Institut Pasteur le redit dans sa dernière étude, on a 25% des contaminations au Covid qui se font sur le lieu de travail. Alors, dans l'urgence, d'abord, je crois qu'il faut bien rappeler à vos auditeurs que dans toutes les situations où il y a un risque d'exposition au Covid, non-respect des gestes barrières, non-port du masque, etc., contamination des instruments collectifs de travail, là, effectivement, la question du droit de retrait doit être posée. Il faut rappeler que c'est un droit pour le salarié de se retirer de sa situation de travail en gardant son salaire intégral. Et puis, il y a ce qu'on revendique depuis plusieurs années, c'est le fait d'étendre les pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail. Ça fait un an qu'on exige, dans le cadre du Covid, que cette possibilité pour les inspecteurs du travail de suspendre temporairement les travaux soit mise en place.
Gérald Lecor au micro de Frédéric Carbone.
10h33 sur France Info et nous sommes maintenant dans une petite commune de 3000 habitants dans les Pyrénées, Tarascon sur Ariège, où l'on respire mieux depuis quelques jours. Le masque n'y est plus obligatoire en extérieur, sauf près des écoles et au marché. Le taux d'incidence du Covid est devenu suffisamment bas pour qu'on puisse se le permettre, ce qui pour le maire récompense les efforts de toute la population. Reportage pour France Info de Stéphane Iglesis.
Ne plus être obligé de porter le masque dans cette petite ville de part et d'autre de la rivière Ariège, c'est vraiment un soulagement, notamment pour Mylène qui habite dans un village proche.
On met pas le masque, on voit quelqu'un on croise quelqu'un toutes les heures ou même. On est proche de la nature, on est au pied des montagnes. Quand on vient à Tarascon, on rentre dans les magasins, on met le masque, ce qui est tout à fait normal. On ne vit pas le confinement comme il est vécu en ville, quoi, parce qu'en ville, on est prisonnier. Dans les villages, en montagne, c'est beaucoup plus tranquille, quoi, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de densité de population au mètre carré.
Reste que beaucoup d'habitants continuent à le porter comme Michel.
Oui, pour les autres, pour moi, et puis de toute façon, on rentre dans les magasins, on en sort. C'est utile de le porter. Puis moi, je le porte tout le temps, sauf dans la voiture quand je suis seule. C'est pas dit qu'on rencontre quelqu'un. Moi, je préfère. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont de cet avis.
D'ailleurs, le maire de Tarascon-sur-Ariège, Alain Sultra, continue à le porter lui aussi.
Je ne sais pas s'il faut dire une chance. Disons, c'est petite porte qui a été entrouverte par Madame la Préfète. Mais quand même, je suis conscient de cet effort réalisé par l'État, de nous demander de retrouver un petit peu de liberté. Mais je demande quand même aux concitoyens de rester prudents et surtout de bien continuer à respecter les gestes barrières, parce que je crois que bon, si effectivement l'incidence de Tarascon est relativement faible, plus faible que la moyenne départementale, et le département ayant une moyenne encore plus faible que sur le plan national, bon, je pense que nous allons dans le bon sens.
Catherine, elle, est vraiment heureuse.
Je suis ravie, hein. Je trouve que le masque dans la rue, ça servait à rien, sincèrement. Donc je trouve que c'est une sage décision. On n'est pas du tout serrés les uns contre les autres et je trouvais ça absolument stupide. Donc ça me mettait très en colère. Je suis super contente de ne plus porter ce masque.
Le maire conseille aux habitants tout de même de continuer à porter le masque, de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières pour que justement il n'y ait pas de retour en arrière.
Un reportage France Info de Stéphane Iglesis, midi 36.
Info, 9h30, midi, Cali Ravel.
Si vous êtes vacciné contre le Covid, vous pouvez commencer à enlever le masque. C'est la dernière recommandation du Haut Conseil de la Santé publique. Mais attention, c'est uniquement pour les réunions à l'intérieur et en respectant les autres gestes barrières.
Quand pourra-t-on ranger le masque au placard? On se dit que plus on vaccine, plus on protège la population. 6 millions de Français sont entièrement vaccinés avec 2 doses. Plus de 14 millions ont reçu une première injection. Peut-on pour autant se relâcher un peu? Oui, dit le Haut Conseil de la Santé publique, mais avec parcimonie, Solène Lehen.
On peut enlever son masque en intérieur seulement si tous les occupants de la pièce sont vaccinés, recommande le Haut Conseil de la Santé publique. Mais il prévient, abandonner le masque en famille ou avec des amis par exemple, ne veut pas dire qu'il faut se relâcher. Les autres gestes barrières doivent être maintenus. Pas plus de 6 personnes dans la même pièce, une pièce à aérer régulièrement. Il faut garder ses distances les uns avec les autres et continuer de se laver les mains. Une exception, même si tout le monde est vacciné, le Haut Conseil de la Santé publique recommande de garder le masque quand l'une des personnes est vulnérable, à des risques de développer une forme grave du Covid. Si cette instance qui conseille le gouvernement consent très peu à relâcher les règles sanitaires, c'est parce que, dit-elle, les vaccins ne sont pas totalement efficaces sur certains variants qui circulent et il n'est par ailleurs pas formellement prouvé que les vaccins empêchent une personne vaccinée de transmettre le virus, d'où la nécessité de rester très prudent.
À l'école où le maillon faible reste le repas à la cantine, si bien que des collectivités investissent dans des capteurs de CO2 qui sont détournés de leur usage initial et installés dans les réfectoires. C'est le cas cette semaine dans ce groupe scolaire de Lille, Louise Thoman.
Au menu de la cantine, c'est ravioli. Et pendant que les enfants mangent leurs pâtes sans masque, évidemment, la diode verte d'un petit boîtier scintille, signe que tout va bien. Ça rassure Stéphane, qui supervise les repas.
On respire mieux. Tant que le capteur reste ouvert, on a toujours un œil dessus, on fait attention. On est content de travailler avec ça.
Jusqu'à présent, ces boîtiers ne servaient qu'à lutter contre la pollution atmosphérique. Mais leur sensibilité a été renforcée, en quelque sorte, pour lutter maintenant contre l'épidémie, explique Audrey Brun, l'adjointe à l'éducation de la mairie de Lille.
Ce ne sont pas des détecteurs de Covid, ce sont des détecteurs de concentration de CO2 dans l'air intérieur. Plus le voyant avance vers le rouge, ça nous dit qu'il y a eu un très faible renouvellement de l'air intérieur et donc qu'il y a un risque accru de circulation des virus.
Ils ne sont installés que dans les réfectoires car c'est là où les enfants sont bien obligés d'enlever leur masque.
Dès que ça passe, non pas au rouge mais au orange, on commence à s'inquiéter. On renforce l'aération entre 2 repas, mais c'est aussi un outil qui nous permet d'avoir un suivi sur le long terme, d'envisager des travaux selon cet indicateur également.
De quoi essayer de limiter la propagation du virus alors que les taux de contamination sont toujours très hauts.
Ils ont 22 et 26 ans et ont eu la mauvaise idée d'organiser une fête sauvage sur les quais de Saône au début du mois. Elle avait réuni 300 personnes. 2 frères sont aujourd'hui poursuivis, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Leur procès s'ouvre à Lyon aujourd'hui.
Le 1er mai, jour de manifestation, 2000 personnes à Caen, pareil à Nantes, au moins 1500 à Dijon. La CGT, FSU, Solidaire et Force Ouvrière battent le pavé avec quelques soutiens politiques. 16 marins d'un même navire testés positifs au Covid-19. Le bateau est amarré au Havre, mais ces marins sont à l'isolement depuis près de 2 semaines et l'apparition de symptômes. L'Agence régionale de santé de Normandie annonce des vérifications pour savoir s'il s'agit du variant indien du virus. La vaccination possible désormais pour tous les adultes obèses, pour tous les adultes atteints atteints de diabète également, d'hypertension ou d'autres maladies chroniques. Voilà pour la France, alors que les autorités indiennes annoncent l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes majeures. Sauf que ce ne sera pas si simple. De nombreux États indiens signalent un manque de doses et des défauts sur la plateforme de réservation de rendez-vous. L'Inde, confrontée à 400 000 nouvelles contaminations en 24 heures.